RCF.
h 30, excellent début de journée à toutes et tous. C'est l'heure du journal présenté par Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Après l'Allemagne, les États-Unis vont aussi envoyer leurs chars à l'Ukraine.
31 chars M1 Abrams a annoncé le président Joe Biden. De quoi compléter la livraison allemande d'une centaine de chars Léopard 2. Un nouveau plan sécheresse a été annoncé par le ministre de la Transition écologique hier. L'objectif, réduire la consommation d'eau après un été 2022 particulièrement sec. Les raffineries sont en grève aujourd'hui. Cela fait partie du feu roulant d'action à l'appel de la CGT Pétrole pour préparer la prochaine mobilisation nationale du 31 janvier.
C'était l'information hier soir, les États-Unis ont annoncé finalement une livraison de chars à l'Ukraine.
Dans les pas de l'Allemagne, le président Joe Biden s'est dit déterminé à montrer son soutien à l'Ukraine face aux offensives russes. Les détails avec vous, Magali Santulli.
31 chars Abrams M1, c'est le total de cette livraison. Une annonce surprise de la part des États-Unis qui refusaient jusqu'alors de livrer d'autres armes lourdes, avançant des raisons de formation et de maintenance. Mais dans son allocution, Joe Biden a expliqué son revirement. Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie, mais bien d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les chars Abrams livrés par les États-Unis font partie d'un ensemble d'aides militaires d'un montant de 400 millions de dollars. Cette aide comprend en effet des munitions, mais aussi des fonds pour la formation et l'entretien, car le char Abrams est décrit comme un équipement très compliqué à manier. D'après John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, cette livraison ne devrait toutefois pas se faire avant plusieurs mois. En tout, depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, Washington a alloué plus de 27 milliards de dollars en aide sécuritaire pour l'Ukraine.
Et face à la livraison des États-Unis, la Russie a de son côté dénoncé une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Et avant les États-Unis, c'est l'Allemagne qui a déclaré envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Cette décision, annoncée par Olaf Scholz aux alentours de midi, permet à de nombreux autres pays européens, comme la Pologne ou la Finlande, de faire de même. Berlin a annoncé aujourd'hui un objectif d'une centaine de chars Léopard 2 en direction de l'Ukraine. Pour le moment, une cinquantaine d'envois est promis de la part des pays occidentaux à Kiev. Mais ces envois de chars sont piochés dans les réserves des pays européens qui n'ont pas forcément la capacité d'en construire d'autres pour les remplacer. Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et auteur du livre « Guerre d'Ukraine », explique les risques d'envoi de ces chars pour les pays européens.
Si on fournit des chars à l'Ukraine, on est obligé d'aller les chercher dans nos panoplies d'armement à nous, qui équipent nos armées à nous, pays européens. Donc il s'agit d'un véritable effort, c'est pas neutre, et il faut aussi qu'on fasse attention à en garder un peu, d'abord pour continuer à entraîner nos équipages, et puis c'est toujours une assurance en cas de besoin. Si les pays ont des armements, eh bien qu'il y a une raison. Et donc il ne faut pas que l'on consomme toutes nos armes dans la guerre en Ukraine. Il y a un débat sur la possibilité de remplacement des chars européens qui sont envoyés en Ukraine par des chars américains. Donc là, on a deux questions. C'est d'une part, est-ce qu'il y a assez de chars américains pour remplacer ? C'est pas évident. Et d'autre part, il y a des intérêts économiques qui sont absolument évidents parce que ça favorise l'industrie américaine qui va remplacer une industrie européenne et en l'occurrence allemande.
Des propos recueillis par Antonin D'Agostino.
7h33, Fos-sur-Mer, La Véra, La Mède, Donge. Les raffineries sont en grève aujourd'hui à l'appel de la CGT Pétrole.
Cela fait partie du feu roulant d'action qu'avait promis le syndicat pour montrer son opposition à la réforme des retraites. Action bien suivie par les travailleurs de la pétrochimie jeudi dernier. Ils étaient entre 70% et 100% à faire grève dans les raffineries. Et cela rappelle les mauvais souvenirs de la pénurie d'octobre dernier, Célia Gueti.
Malgré les discours d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de nombreux Français se sont rendus à la pompe après le préavis de grève de la CGT Pétrole. C'est pourtant une grève de seulement 48 heures qui aura lieu cette semaine et le blocage des réapprovisionnements n'aura lieu que si nécessaire, selon Éric Cellini, coordinateur national du syndicat pour Total Énergie. Cette grève ne devrait pas trop impacter les conducteurs, donc c'est juste une baisse de débit qui est attendue. Depuis octobre, les stocks stratégiques ont été réapprovisionnés. Il ne devrait pas y avoir de pénurie. À part dans deux scénarios, celui d'une surconsommation de la part des automobilistes et, si les grèves du secteur durent dans le temps, les syndicats gardent cette possibilité sous le coude. La première grève a duré 24 heures. heures. Cette semaine, elle dure 48. Et le 6 février, un préavis de 72 heures de grève a déjà été posé. 3 jours au total, bien en dessous des 23 qu'a duré la grève d'octobre dernier.
Et les raffineries ne sont pas les seules à s'être mises en grève. La CGT Port et Dock ainsi que la CGT Cheminots ont également posé un préavis. La nature ne nous laisse pas le choix, ce sont les mots de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, pour présenter le plan d'eau du gouvernement afin de lutter contre les épisodes de sécheresse. Objectif global, diminuer d'un peu plus de 10% le volume d'eau prélevée dans nos sous-sols d'ici la fin du quinquennat. Cela représente 4 millions de mètres cubes sur un total de 33 captés chaque année, selon le ministre. Parmi les solutions évoquées, un meilleur recyclage des eaux usées. On peut imaginer que la réglementation évolue sur ce point, concède Christophe Béchu. C'est justement l'une des préconisations de Jean Launay, président du Comité national de l'eau. Il a remis début janvier une synthèse de recommandations à Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie.
C'est moins de 1% de l'utilisation de l'eau qui nous vient de la réutilisation des eaux usées traitées, sorties de stations d'épuration et avec souvent des traitements complémentaires. Aujourd'hui, je pense que le blocage est plus réglementaire. Chez nous, réglementation sanitaire, principe de précaution est, de mon point de vue, poussé tellement à l'extrême qu'on se demande comment les autres ont fait pour le dépasser et ne pas avoir d'ennuis avec cette utilisation. À la différence d'autres pays d'Europe, dont l'Espagne, qui utilise pratiquement 10 fois plus de recours à la réutilisation des eaux usées traité. Il y a un gros effort à faire en interministérialité sur cette réflexion avec le ministère de la Santé. Mais les processus sont engagés.
Une attaque meurtrière dans une église en Espagne.
Hier soir, un sacristain a été tué et un prêtre grièvement blessé dans une attaque à la machette. L'attaque s'est produite dans 2 églises d'Algeciras, dans le sud de l'Espagne. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour terrorisme. De son côté, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a adressé sur Twitter ses plus sincères condoléances aux proches du sacristain décédé lors de la terrible attaque d'Algeciras.
Au festival de la BD d'Angoulême, le suspense était à son comble.
Et c'est finalement Riyad Satouf qui a remporté hier le Grand Prix. Le franco-syrien, auteur célèbre de L'Arabe du Futur, s'est dit profondément honoré et ému de cette récompense. Le Grand Prix d'Angoulême étant une des plus hautes distinctions dans le monde de la bande dessinée. Le dessinateur de 44 ans était en compétition avec 2 femmes, la française Catherine Meurice et l'américaine Alison Bechdel. Chaque année, l'événement international donne un coup de projecteur sur le monde de la bande dessinée. Mais ce poids lourd de l'édition en France n'est pas l'école de la paresse, à l'instar de Tintin ou Astérix et Obélix. Selon Magali Hamel, directrice artistique de l'association Passage à l'art, la BD a aussi un rôle social.
J'ai tendance à dire que la BD, c'est presque une arnaque, parce qu'on vous fait croire que c'est très simple d'en lire, parce qu'il y a le dessin qui vous amène, mais derrière, les sujets peuvent être très complexes, finalement. Le dessin n'aide pas la lecture, il fait partie de la lecture. Donc oui, je pense que tout le monde peut lire de la bande dessinée. Vous aurez toujours une frange de population très réfractaire. J'en connais personnellement, on s'entend très bien quand même. Mais globalement, je pense que le dessin permet de faciliter l'arrivée sur des sujets qui peuvent être très complexes et qui peut-être seront racontés de façon a priori plus facile avec l'aide du dessin.
Enfin, une bonne nouvelle, Marion Torquebio.
L'équipe de France de handball est en demi-finale du mondial de hand. Au terme d'un match serré en première mi-temps contre l'Allemagne, la France s'est finalement imposée 35-28 à Gdansk en Pologne. Une rencontre marquée par la performance de Rémi Desbonnets, le gardien remplaçant qui a été auteur de 12 arrêts. Vendredi, c'est la Suède que l'équipe de France affrontera en demi-finale. Les pénuries et l'inflation s'aggravent dans plusieurs régions du sud du Pérou. La raison, des barrages routiers dressés par les manifestants qui continuent de réclamer inlassablement la démission de la présidente Dina Boluarte. Le pays andin traverse depuis presque 2 mois des manifestations violentes après la destitution début décembre de l'ex-président de gauche, Pedro Castillo. Déjà hier, plusieurs milliers de protestataires venus des régions andines pauvres ont défilé dans le centre de Lima, munis de drapeaux péruviens et au cri de « Dina assassine ». Au total, près de 46 personnes ont été tuées depuis le début des mobilisations en décembre.
Merci beaucoup Marion Torquebio pour le journal de la rédaction en ce jeudi 26 janvier. J'en profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les Paul et Pauline, Tite et Timothée. Très bonne fête en ce jeudi 26 janvier. C'est leur fête dans l'éphéméride d'aujourd'hui. Excellente journée à tous, excellent réveil.